Bonjour Amina Abdoulaye.
Bonjour.
Nous sommes dans un jardin magnifique verdoyant à Locarno parce que vous êtes présente dans la section Open Doors avec votre film L'Envoyé de Dieu. Est-ce que déjà la salle était pleine, tous les billets étaient vendus et Abdoulaye et Inch'Allah. Et en fait votre film L'Envoyé de Dieu suit une jeune fille de 12 ans qui se retrouve prise par des djihadistes. Et vous questionnez pourquoi, dans votre film, en fait, ce sont des enfants qui sont extérieurs à ce combat terroriste, qui sont prises, utilisées comme enfants martyrs. Elle va se retrouver avec une ceinture d'explosifs et elle va être placée dans un marché où elle retrouve sa mère. Et vous questionnez aussi à travers ce film pourquoi les djihadistes n'envoient pas leurs propres enfants.
Tout à fait, vous avez résumé le film. Et alors, le questionnement, c'est vrai, je me suis posé beaucoup de questions. D'abord, pourquoi ils font ça? C'est au nom de qui ils font? Voilà. Parce que quand ils ramassent ces enfants, après quelques mois, c'est après quelques mois, ils pensent que ces enfants-là ont été assez endoctrinés pour les envoyer, parce que ces enfants servent des bombes à...
Bombes humaines,
voilà. Et ils exécutent ce qu'on leur dit d'aller faire. Parce que c'est des enfants, parce que. Et ils disent, c'est au nom de Dieu, eux, les djihadistes. Ils disent que voilà, c'est au nom de Dieu, quand vous faites ça, vous allez au paradis, peut-être vous allez rencontrer vos parents, ceci, cela. Donc...
Comme les enfants soldats qui ont fait croire...
Oui. Parce que je ne comprends pas pourquoi on va prendre ces enfants, on dit que c'est au nom de Dieu. C'est quel Dieu qui a dit? Pourquoi on met Dieu devant, on met l'islam devant quand les gens sont frustrés, ils trouvent toujours un moyen de toucher la sensibilité des gens. Et c'est beaucoup plus facile en passant par la religion, en fait, parce que c'est très sensible. Donc, ils disent, c'est au nom de Dieu, tu vas à mission divine. Mais pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants? Et c'est au nom de quel Dieu? C'est quel Dieu qui a dit de faire ça? Il n'y a aucun Dieu qui a dit. On a un seul Dieu.
Et d'après Dieu, on respecte la vie.
On respecte la vie. Mais on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. C'est lui qui est...
Ni de se la quitter.
Voilà. Il est le seul qui le fait. C'est tout. Il donne la vie, il récupère. Nous tous, on comprend, on connaît, on a lu. Et ils sont frustrés, ils s'élèvent, ils commencent à faire ça. Et pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants? Ils envoient les enfants des autres. C'est ça que j'ai dit. C'est la question que je me pose. Et je fais passer cette question-là à cette petite fille pour lui demander c'est au nom de quel Dieu. Et le boss était frustré. Parce que pour lui, ce n'est pas possible que quelqu'un lui pose cette question. Et il n'avait pas de réponse d'ailleurs.
C'est presque un acte militant, un acte militant de sa part, de questionner l'ordre qu'elle reçoit.
Mais bien sûr. Et elle lui demande pourquoi Dieu n'a pas envoyé son enfant. Si c'est au nom de Dieu. Voilà, mais c'est exprès qu'elle a dit pourquoi Dieu n'a pas envoyé son enfant. Pour dire pourquoi toi tu n'envoies pas ton enfant. Oui, c'est beaucoup plus simple si vous faites avec vos enfants. Peut-être on va dire oui, bon, ok, leur lutte là ou leur truc qu'ils font là, c'est un ensemble, ok, on comprend. Ils font des trucs, mais ils font des malheureux, ils rendent les enfants, les parents malheureux. Les parents impuissants, vous avez vu quand elle est partie, elle a traversé le marché et tout, par coïncidence, elle retrouve sa maman. La maman, elle voulait la prendre dans ses mains. Ça, c'est un moment extraordinaire pour n'importe quel parent, mais elle ne peut pas. Elle fuit, la maman la suit. La maman ne sait pas pourquoi son enfant, après 7 mois d'absence, et qu'elle ne s'attendait même pas que cette fille allait revenir, parce qu'il y a très peu qui reviennent. Elles sont censées exploser, mourir.
Et beaucoup sont violées, les filles. Et sont tués.
Tout. Elles subissent tout ce que vous pouvez même pas imaginer là-bas. Et vous avez vu la scène de viol que j'ai mise, c'était subtil, parce que je ne voulais pas montrer vraiment une scène de viol. On n'en a pas besoin, on en a tellement vu. On a vu, on a lu, donc je n'ai pas besoin de refaire la même chose que les gens. J'ai fait ça subtilement. Voilà.
Et c'est important quand même de le faire subtilement, mais de le rappeler.
Oui.
Malheureusement. L'envoyé de Dieu, c'est quand même lié à la situation des pays africains, en particulier subsahariens.
Oui.
Parce que depuis maintenant quelques années, les djihadistes prennent de l'ampleur, s'étendent. Personnellement, et au niveau aussi de votre pays, comment vous le vivez?
Avant, c'était très difficile. Maintenant, ça va. Maintenant, sincèrement, ça va. Et l'armée est en train de faire un gros, gros travail autour de ça. Nos gouvernements, l'armée.
Voilà. L'armée nigérienne.
L'armée, oui. L'armée nigérienne. Oui, oui, oui. Et ils ont fait, ils sont en train de faire de leur mieux. Oui, peut-être.
Comme le Mali.
Oui, comme le Mali ou comme le Burkina. C'est une grande, grande lutte. Et la lutte, elle est énorme. Pour éradiquer tous ces gens-là, ce n'est pas tout de suite. Et maintenant, parce qu'ils ont pris beaucoup de temps pour s'implanter. Ils ont pris beaucoup, beaucoup d'années pour trouver des adhérents, recruter des gens.
Et avoir des racines partout.
Avoir des racines partout. Voilà, c'est le mot que je cherche. Avoir des racines partout.
J'ai lu les mouvements de vos mains, Amina.
Merci.
Et par contre aussi, ces gens-là, comme on dit, parce qu'ils ne méritent pas qu'on les appelle autrement, ces gens-là, ils obtiennent des filières d'armement incroyables.
Bien
sûr. Toujours plus d'armement.
Toujours plus d'armement, mais on sait peut-être, j'ai dit, on ne sait pas, ça vient d'où, où on sait. C'est tout un questionnement aussi. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de m'étaler sur ce truc pour savoir les armes viennent d'où, qui leur procure ces armes. Peut-être on sait, peut-être je sais, j'ai ma réponse. Mais moi, je combats toute forme de violence, toute forme d'injustice, surtout la violence. Quand les gens sont frustrés, ils prennent des femmes, ils prennent des enfants pour les utiliser. Mm. Voilà, ça c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Mm. Donc moi je combats ça avec ma caméra.
En même temps, vous vous intéressez aussi à vos jeunes protagonistes, à la relation émotionnelle, à la relation familiale, aussi au conflit de loyauté. Parce qu'en même temps, si elle enlace sa maman, sa ceinture d'explosif saute dans 10 minutes. Donc vous regardez toute cette dimension aussi de loyauté.
Tout à fait.
Et du respect des traditions, l'héritage.
De l'héritage. Et vous avez vu, même il y a le flashback, elle était avec sa maman, et elle avait une vie tranquille, comme tout le monde. Et à un moment donné, son destin a basculé, elle s'est retrouvée avec ces gens, et elle est revenue. Et même le marché, c'était pas un truc organisé pour qu'on la dépose dans ce marché, pardon, c'était juste une coïncidence en fait. Elle s'est retrouvée dans le marché de chez elle. Parce que, bon, et ils font d'énormes attaques. En fin de compte, ils ne savent même pas c'est où et où et où.
Toujours des lieux quand même très bondés.
Mais c'est des cibles. Mmh. Ils font leur cible, ils ont leur cible. Et ils cherchent toujours des lieux très bondés du monde. Mmh. Comme le marché, la mosquée. Mmh. Voilà, le marché, la mosquée, l'église, l'école. C'est à l'école qu'ils partent pour ramasser les enfants là, en classe. Ils tirent, ça crie, les gens fuient. Maintenant, ils ramassent. S'il y a 10 personnes qui vont fuir, ils vont peut-être essayer de ramasser 4. Peut-être les 6 là, ils ont la chance, ils vont fuir. Ou les 4 vont fuir, ils vont ramasser, ils vont kidnapper les 6. Voilà, et après on les dépose dans le marché pour faire parler d'eux, pour qu'on entende. Je cherche comment expliquer. Oui, pour faire parler d'eux.
Pour faire de la publicité.
Oui, parce que dans un marché, la fille dans le film, si j'avais décidé qu'elle s'explose dans le marché, si jamais elle s'explose dans ce marché, est-ce que vous imaginez le dégât qu'elle allait faire dans ce marché? Elle, déjà, elle va déchiqueter, elle va mourir, ça c'est sûr.
Les marchands, les clients, tout le monde.
Tout le monde.
Avec des mères de famille, des enfants.
Avec tout le monde. Oui. Et vous avez vu, peut-être au bout d'une minute, la vie de tout le monde allait basculer. Oui. Il y aura ceux qui vont laisser leur vie. Peut-être quelqu'un, il va perdre son bras ou le pied. Parce que la bombe, elle est vraiment puissante. Ils savent ce qu'ils font. La bombe, elle est très, très, très puissante.
Voilà. Amina, vous mentionnez des lieux qui sont publics très fréquentés. Mais aussi, on pense quand ça a commencé, il y avait l'histoire des jeunes filles qui étaient enlevées à Tombouctou, justement dans une région presque désertique. Et ils ont commencé comme ça. À toucher des zones où ils étaient un peu méconnus.
Okay.
Et après, ils se sont petit à petit étendus à travers tout le Sahara subsaharien. Et maintenant, tous ces pays tiennent bon. La résistance est là. On pense au festival de FESPACO, qui malgré tout continue, malgré tout ce qui se passe.
Malgré tout ce qui se passe, le FESPACO continue. Le Sahel, le peuple sahélien, c'est des peuples résilients, très résilients.
Solidaires, très résilients.
Bon, c'est un truc, moi je me dis ce truc de djihadisme ou terrorisme, tout ce qu'on peut ou veut l'appeler, c'est un truc qu'on nous a imposé. Mais ça va finir un jour. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais un jour ça va finir. Il y a eu plein de catastrophes comme ça. Voilà, ça prend le temps qu'il faut. Au Niger, vous connaissez un peu peut-être l'histoire du Niger. Il y a eu la rébellion dans les années, je pense, 90. Il y a eu la rébellion au Niger. Ça a pris le temps qu'il fallait prendre.
Comme pour les indépendances de tous les pays.
Comme la lutte des indépendances de tous les pays. Ça a commencé en 58 jusqu'en 61, 62. Bon, ça c'est fini, c'est terminé, les gens sont passés à autre chose. Au Niger, on a connu la rébellion, ça va, ils ont vécu pendant, je pense, une décennie. Après, ils ont trouvé un compromis, flamme de la paix, par-ci, par-là, et les gens sont passés à autre chose. Ce truc de djihadisme, un jour, on va entendre parler de très loin. Peut-être que ce n'est pas nous, c'est nos enfants ou nos petits-enfants. Et ils vont raconter, ou bien quelqu'un, ils sauront, en tout cas, il y a eu ce truc de djihadisme, et pendant ce temps, ils ont envoyé autre chose. Voilà.
Inch'Allah. Amina, je pense justement à ce que vous dites par rapport à la lutte des indépendances. Eh ben, au début aussi, il y avait des hommes comme Sankara, Lumumba, qu'on a voulu faire taire, qu'on a fait taire, et les indépendances sont arrivées. Donc on espère que pour les terroristes et les djihadistes, ça sera la même chose.
Non, ça va finir. Le djihadisme, le terrorisme, ça va finir. Inch'Allah, ça va finir très très bientôt. Oh, ouais, ça va finir. Et les gens qui fabriquent ces gens-là, ils vont peut-être se retirer, aller fabriquer autre chose.
Ou partir en enfer.
Ah, peut-être.
Amina, hors micro, vous disiez que vous étiez à la fois algérienne et nigérienne. Vous êtes formée à Niamey.
Oui,
vous pouvez nous en parler?
Oui, oui, je suis née, grandie au Niger, et ma région, ma ville, c'est Zinder. Et après le bac, je suis venue au Niger, j'ai dû au Niger et à Niamey, l'université et tout. J'ai fait école de journalisme. Et quand j'ai dit je suis algérienne, mais j'ai une histoire très particulière avec l'Algérie via mon papa. Voilà, mon père est Abdoulaye Mamani,
écrivain
et poète.
Voilà, il vous a transmis les gènes de la création.
Journaliste quand il était en Algérie, parce qu'il s'est retrouvé en Algérie dans les années 60, comme il fut révolutionnaire de son époque. Ils ont beaucoup lutté pour l'indépendance réelle de son pays. Il a lutté avec son groupe pour l'indépendance réelle du Niger. D'ailleurs, j'ai fait un film documentaire sur les traces de Mamani. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Et voilà, moi, j'ai vraiment... Ce film m'a permis de connaître mon père parce que j'étais toute petite quand il était décédé. Je ne l'avais pas très bien connu. Je n'avais pas su toute cette lutte qu'il a faite. Et je n'ai jamais su qu'il était aussi une personne très, très importante de l'histoire africaine.
Et persécuté à cause de sa lutte.
Ah, mais bien sûr, à cause de sa position. Et à cause de sa lutte, il a été persécuté. Et vraiment, sa tête a été mise ou un titre, quoi. Voilà, on le cherche pour le tuer, la France le cherchait. Et il a fui pour se retrouver en Algérie. Parce qu'à l'époque, l'Algérie...
Socialiste.
Oui, a accueilli tous les révolutionnaires...
Du monde entier, du continent africain.
Tout à fait. Et il s'est retrouvé dans ce groupe-là. Il a vécu pendant 14 ans en Algérie.
Oui. À la capitale.
Oui, à Alger. À Alger, et j'ai eu la chance d'aller. Quand je faisais le film, quand je faisais des recherches pendant la production.
Sur votre papa?
Oui, oui, sur Mamani Abdoulaye. Je l'appelle comme ça parce que c'est. Quand je dis papa, je me retrouve comme une petite fille. Mais quand je dis Mamani Abdoulaye, c'est un homme public.
C'est un héros.
Ça, c'est vous qui le dites.
J'assume.
Ok, d'accord. Ok. Et j'ai pas eu l'occasion ni la chance d'aller en Algérie, mais plus tard, quand le film était sorti, par coup de chance, j'étais invitée à un festival, festival du cinéma des films engagés d'Alger.
Ah, d'Alger, je pense.
Oui,
Parce que je pensais à celui de Tlemcen, je pensais à celui d'Annaba. Non.
C'est à Alger même. Ah. Et je suis partie pour visiter l'appartement C'est
où il a vécu?
Oui, oui, avec tous ces gens, les Stokely, les Karmika, les...
Elbiar, le quartier d'Elbiar.
C'est ça, c'est ça, exactement. Voilà. Et après, il y avait une maison à la Grande Poste d'Alger.
Oui.
La maison actuellement, elle est là comme un monument.
La rue...
Une maison blanche comme ça, c'est fermé à clé. Mais je pense que le gouvernement a voulu garder ça.
Oui, préserver.
Ouais.
C'est pas loin d'ailleurs du port.
Pas du tout.
Eh ben voilà, donc on a un point en commun. Alors pour revenir à votre création, ce qui vous importe, c'est aussi de montrer les gens qui sont peut-être oubliés, qui sont pas justement exposés sur le grand écran. Là, vous leur donnez une visibilité avec des valeurs qui vous sont importantes. C'est les valeurs de ce qu'on hérite, de la famille, de la culture. Il y a d'autres valeurs qui vous importent aussi, et c'est celle de montrer la loyauté des personnes, comme cette petite fille face à sa mère.
Oui, oui, la loyauté des personnes, comme cette petite fille en face de sa mère. Elle voulait, et elle, oui, il y avait l'envie d'aller vers sa maman, prendre sa mère dans ses bras, parce qu'elle est partie. Ni elle, ni sa maman, personne ne s'attendait à ce retour. Mais comme je voulais qu'elle reste loyale, déjà vu dans le camp, elle a confronté le boss. Et elle ne peut pas aller encore avec sa maman. Si la bombe s'explose, elle va tuer sa maman. Du moment où elle a refusé de s'exploser au marché, tuer ce grand monde. Elle doit rester loyale. Moi, c'est ça qu'on m'a inculqué comme valeur. Il faut rester loyale. Voilà.
Amina, on a parlé du FESPACO. Est-ce qu'il y a des cinéastes du Niger et d'autres pays africains qui vous ont porté vers cette voie?
Oui, cinéastes africains, oui. Niger, pas. Mais cinéastes africains, oui. Et d'ailleurs, je cite tout le temps le défunt Idrissa Ouédraogo. Voilà, que tout le monde pratiquement connaît à travers ses films, un grand, grand cinéaste, paix à son âme. Moi, il m'a porté dès l'enfance, parce que nous, on a grandi avec ses films. On regardait ses films. On comprenait même pas la langue, mais on a toujours aimé regarder les films d'Idrissa, parce que c'est pas loin de nos cultures. La culture africaine, c'est presque la même chose. Et plus tard, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On est devenus des amis même, voilà, et il m'a toujours conseillé. Si j'ai des projets, je lui racontais comme ça. On a l'habitude de s'asseoir quand il passe au Niger, et la première personne qu'il appelle, c'est moi. Ah, Amina, je suis là. Ah, maestro, parce qu'on l'appelle maestro. Ah, maestro, ok, si je suis à Niamey, j'ai dit ok, j'arrive. Il connaît presque même ma famille. Moi, je lui ai parlé 2 jours avant son décès, voilà, et j'ai fait le déplacement. Ensuite, là, je ne vivais pas à Ouaga, de Niamey jusqu'à Ouaga, pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Voilà, il m'a toujours accompagnée. Oui.
Amina, il y avait un autre maestro qui nous a quitté pendant le FESPACO, qui devait être membre du jury.
Ah oui, Souleymane Cissé. Oui, oui, oui.
J'imagine que ces films vous ont nourri aussi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, ces films sont dans des classiques. Ces films aussi m'ont nourri, tout à fait.
Et à propos du socialisme, lui, il a étudié à Moscou.
Bien sûr.
Parce qu'il y avait un échange fort avec les pays africains et l'URSS.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a fait l'école du cinéma de Moscou, la VGIK, quelque chose comme ça, oui. Si, si, si.
C'est pas si, bah, vous parliez mieux que moi. Lui aussi vous a nourri, j'imagine. Et puis lui aussi, il était un passeur.
Bien sûr. Moi, je l'ai croisé à Ouaga la première fois. Souleymane Cissé, c'était en 16 ou 17, quelque chose comme ça. Et depuis là, aussi à FESPACO, c'est le lieu où on rencontre tout le monde. Voilà. Il sait à peu près qui je suis. Et il a regardé le documentaire sur mon père. Et l'année passée, on était en Guinée à un festival.
Guinée-Bissau, non, Guinée.
Guinée-Conakry.
Conakry.
Voilà. Et là, il a vu l'envoyé de Dieu. Il a pris le micro. Il m'a fait un très bel hommage. Ça, je ne vais jamais, jamais oublier. Il a vu, il était ému. On était assis, lui et moi, ensemble. On regardait le film. À un moment donné, il s'est levé pour sortir dehors. Mais parce que la projection, c'est en plein air. Et en face de la mer. Donc il s'est retiré un peu et j'entendais son souffle.
L'émotion forte.
L'émotion forte. Le fait que la fille, le truc de... le
l'envoyé de Dieu l'a tellement touché.
Voilà, le décompte de la bombe là. Mmh. Et il s'est retiré. Quand le film était fini, voilà, applaudissement, maintenant il échange et tout, lui il a pris le micro, il m'a rendu un bel... Il a bien parlé. Voilà. Voilà. Et on même à travers le micro, on entendait vraiment son souffle. Il était très très ému. Il a dit c'est une très belle création, Amina, continue comme ça. Et on n'a pas très peur, on a la relève. Même si on ne peut pas compter sur tout le monde. Mais il dit ça ne m'étonne pas, ce film ne m'étonne pas venant de toi parce que j'ai vu ton film que tu as fait sur ton père. Mmh. Il dit je sais un peu qui est ton père. Voilà, il a dit ça un peu comme ça. Ouais.
Il a créé d'ailleurs.
Il avait beaucoup, beaucoup d'estime pour moi. Moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour Lupin à son âme.
C'est un son âme.
Grand, grand, grand cinéaste.
Et Amina, il a d'ailleurs créé un festival à Bamako et un dans son village d'origine.
D'accord, ah, ça, je ne savais pas.
Ouais. On espère qu'ils continueront d'entretenir Sophie.
Ça, je ne savais pas.
Ce festival. Mmh. Amina, vous êtes donc ici à Open Doors. Comment vivez ce séjour Locarnais au lac Majeur, et est-ce que ça vous apporte plein de contacts?
Bien sûr, c'est une belle opportunité pour moi, et je l'ai mentionné quand ils m'ont écrit, parce que c'était pas du tout donné aux Africains de venir par là.
Oui, c'est une belle visibilité pour votre continent.
C'est une très, très, très belle visibilité pour notre continent, pour l'Afrique, et pour moi aussi, en tant que créatrice qui commence, voilà, j'ai pas 10 films, hein. je commence et tout, et je suis très contente d'être là. C'est une très belle occasion, une très belle opportunité parce que je rencontre du monde, et voilà Firouz qui me fait une très belle interview,
et voilà, une interview très intéressante. Amina,
merci beaucoup pour cette visibilité aussi.
Vous allez nous tenir au courant de la suite.
Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir.
Machallah, machallah.
Et j'ai rencontré pas mal de producteurs, de distributeurs, de diffuseurs aussi. Et ils ont organisé des one-to-one, des rencontres avec tous ces gens-là, nous et avec tous ces gens, pour expliquer nos prochains projets.
Et pour tisser des contacts.
Voilà, le festival, c'est ça aussi. Il n'y a pas que montrer le film, il y a tous ces échanges de contacts, de rencontres. Moi, je suis très contente d'être là. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier toute cette équipe dynamique de Open Doors qui se sont mobilisés pour qu'on vienne ici.
Amina, vous entendez, je vous avais dit, les cloches sonnent. Nos pères sont en train de discuter au paradis.
Inch'Allah. Que Dieu leur accorde son paradis éternel.
Et que il vous apporte bénédiction pour votre travail.
Merci beaucoup, Amine et Arabi.
Et Amina, juste une question encore, puisque votre papa écrivain est très connu, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à cette littérature. J'imagine que l'écriture est un moment très important dans votre création.
Mais bien sûr, parce que moi j'écris mes films. Voilà, j'écris tout, j'écris mes films, là je développe, donc j'écris tout le temps. Moi j'écris même, il y a un de mes collègues à Ouaga, il dit toi tu es toujours dans l'antiquité, je suis toujours en contact avec le papier, un bic ou un crayon.
C'est mieux que l'ordinateur.
Oui, et après j'ai un ordinateur, mais après je reviens encore pour saisir...
Le côté organique du papier.
Voilà, c'est ça. C'est ça, l'écriture c'est très très c'est important pour moi parce que j'écris mes films et maintenant après je cherche des gens autour pour m'accompagner. Voilà.
Donc on n'a pas que l'Algérie en commun, on a aussi le papier organique, le crayon, la création au sens propre du terme. Moi je suis un petit peu siècle dernier, voire même 18e, mais j'assume, j'aime beaucoup. J'aimais bien quand on s'écrivait.
Ah.
Et quand on s'écrivait des lettres.
On aurait dû s'écrire des lettres.
Oui, on aurait
dû. Moi j'ai vécu cette période.
Bon, si je dois écrire à Niamey, ça prendra du temps, j'espère qu'elle ne se perd pas.
Peut-être je t'envoie mon adresse de Ouaga. Tu l'envoies à Ouaga comme je vis à Ouaga.
Ah, Ouaga, bah. Et voilà, fais Paco de nouveau.
Tu es déjà venue?
Non, jamais.
Non.
Voilà, il faut que je vienne.
Il faut venir.
J'étais invitée justement par Souleymane. Et puis.
Waouh!
C'est un projet. Avec le prochain film, Amina.
D'accord.
Et fais Paco à Ouaga.
Oui, Inch'Allah.
Inch'Allah, c'est avec plaisir. Bah, Mina, on ne va pas dévoiler l'écriture, on ne va pas parler du prochain film, mais juste savoir quelles thématiques sont abordées.
C'est la même thématique que l'envoyé de Dieu, oui.
Donc les djihadistes,
oui.
Les enfants martyrs.
Cette fois-ci, c'est sur un repenti. Un jeune qui est parti s'enrôler dans Boko Haram là. Après, il est revenu. C'était dur là-bas.
Prise compliqué. De conscience.
Oui, prise de conscience. Mais quand il sera là-bas, il va suivre tout le processus de déshumanisation. Il sera déshumanisé, transformé, endoctriné. Après, il prend conscience.
Lavage de cerveau.
Après, il prend conscience parce que c'est très dur aussi de vivre avec ces gens-là, avec tout ce truc qu'ils vivent aussi.
L'extrémisme.
Ah, mais bien sûr. Et il y a une petite continuité avec l'envoyé de Dieu parce que je vais créer une petite relation entre lui et une fille. Et il va fuir avec cette fille. Il est censé de prendre cette fille en moto pour aller la déposer, mais il va fuir avec elle.
Donc l'amour est peut-être la solution.
Peut-être.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Merci Amina pour cet entretien.
Merci beaucoup.
Ça a été un plaisir et on se réjouit de la suite.
Le plaisir est partagé et tout le plaisir est pour moi, sincèrement. Et depuis 3-4 jours, j'ai toujours appelé aux gens du festival cette interview.
Ah, merci Amina.
Oui.
Vraiment, shukran.
Oui. Ouais.
Mashallah.
J'ai dit, mais c'est comment? Est-ce que vous avez calé? Elle vient ou pas? Elle est au courant? Voilà. Oui.
Elle était au courant, Firouz, mais elle a eu de la peine.
C'est pas
mais les cloches de nos pères
ouais, tout à fait.
On nous ont aidés.
Et
quand le destin.
Un beau nom.
C'est la chanteuse libanaise, Fayrouz. La turquoise.
D'accord.
Et une chanteuse qui est à la fois poétique et politique.
Oui, Fayrouz.
Qui est toujours en vie.
Elle est toujours en vie.
Merci beaucoup, Amina.
Merci beaucoup.
Et bon succès. Et on...
Merci.
Et on attend. Merci à nos pères.
Oui.
Père Loram. Et on se réjouit du prochain
merci
film.
Merci pour le lien. C'est eux qui ont fait ce lien-là.
Voilà. Le Mektoub.
Oui, Mektoub.
Mektoub. Merci Amina.
Allez, bonne journée.